Première partie, l'ombre d'Elantris. Chapitre 1er. Le prince Raoden d'Arellon se réveilla tôt ce matin-là, sans la moindre idée que la damnation venait de le frapper. Encore assoupi, il se redressa sur son séant et scia dans la lumière du matin. Par les portes-fenêtres ouvertes sur son grand balcon, il apercevait au loin la vaste Elantris dont le mur austère jetait une ombre profonde sur la localité plus modeste de Caë, où le jeune homme résidait. Malgré la hauteur du mur, on voyait au-delà pointer les tours noires dont les flèches brisées témoignaient de la majesté passée et de la ruine présente qui caractérisait la cité abandonnée. Celle-ci paraissait encore plus sombre qu'à l'ordinaire. Il la contempla l'espace d'un instant, puis il se détourna. On ne pouvait guère ignorer l'immense muraille, mais les habitants de Caë s'y efforçaient. Il était pénible de se remémorer cette beauté enfuie, et de se demander pourquoi, 10 ans plus tôt, la bénédiction du Shaod avait tourné au cauchemar. Raoden secoua la tête et sortit de son lit. L'aube lui parut d'une chaleur inhabituelle. Pas un frisson ne le secoua, tandis qu'il revêtait sa robe de chambre et tirait sur le cordon fixé à son chevet pour indiquer à sa servante qu'il voulait déjeuner. Cela aussi, c'était curieux. Il avait faim. Très faim. Il lui semblait souffrir de disette. Jamais encore il n'avait apprécié les petits déjeuners copieux. Mais ce matin-là, il avait hâte de se rassasier. Il finit par décider d'envoyer quelqu'un voir ce qui retardait le service. « Yen ? » lança-t-il dans l'obscurité. Aucune réponse. Raoden fronça les sourcils en constatant l'absence du Séon. Où était passé Yen ? Le prince se leva du fauteuil où il avait pris place, et son regard trouva une fois de plus Elantris. Niché dans l'ombre de la métropole, Caë paraissait minuscule, un simple village. Elantris, un énorme bloc d'ébène, le cadavre d'une ville. Cette fois-ci, Raoden frissonna. On frappa à sa porte. « Enfin » murmura-t-il en allant ouvrir à la vieille Elao, qui lui apportait du pain chaud et des fruits. Alors qu'il tendait le bras pour s'en saisir, le plateau du petit-déjeuner échappa à la vieille servante, qui considérait Raoden d'un air égaré, et tomba par terre à grand fracas. Le prince se figea. Le bruit métallique résonnait dans le couloir. « Domu miséricordieux !» souffla Elao le regard horrifié, et elle porta une main frémissante à son pendentif Korati. Il voulut la prendre par l'épaule, mais elle recula d'un pas mal assuré, en trébuchant sur un melon dans sa hâte à fuir. « Qu'y a-t-il ? » demanda Raoden. C'est alors qu'il vit sa propre main. La lueur tremblotante de la lanterne du corridor révélait ce que la pénombre de la pièce avait dissimulé. Le prince pivota sur ses talons et traversa sa chambre à la hâte, écartant les meubles sans ménagement pour arriver plus vite devant son miroir en pied. Le jour naissant lui permit de voir son reflet, le reflet d'un inconnu, d'un étranger. Ses yeux bleus restaient les mêmes, quoique écarquillés de terreur, mais sa chevelure châtain avait viré au gris sale, et le pire, c'était sa peau. Le visage du reflet arborait des taches d'un noir maladif, telles des meurtrissures. Nul ne pouvait se méprendre sur la signification de cette avelure. Le Shaod s'était emparé de lui. La porte d'Elantris se referma derrière lui avec une sourde détonation, un bruit choquant par son caractère définitif. Il s'y adossa, assommé par les événements de la journée. Ses souvenirs lui semblaient appartenir à un autre. Le roi Yadon avait évité son regard tout en ordonnant au prêtre de le préparer pour le jeter dans Elantris. On avait agi à la hâte et avec discrétion. Le prince héritier faisait désormais partie des Elantriens, et le souverain ne pouvait laisser la nouvelle s'ébruiter. 10 ans plus tôt, le Shaod aurait changé Raoden en dieu. À présent, au lieu de transmuer les êtres humains en divinités d'argent, il en faisait des monstres. Incrédule, le jeune homme secoua la tête. Le Shaod était censé prendre les autres, des inconnus, qui méritaient leur malheur, pas l'héritier d'Arelon, pas Raoden. L'esplanade de la cité s'étalait devant lui. Sur le haut mur se succédaient guérites et soldats, des hommes postés là non pour repousser les ennemis, mais pour emprisonner les habitants. Depuis le Réod, on envoyait toutes les victimes du Shaod pourrir à Elantris. Ce lieu déchu était devenu le vaste tombeau de ceux dont le corps avait oublié comment mourir. Raoden se rappelait avoir foulé ce mur et contemplé les pauvres airs d'Elantris, comme les gardes le contemplaient désormais. La cité alors paraissait loin, quand bien même il se trouvait juste au dehors. Il s'était demandé, en philosophe, quelle impression cela ferait de parcourir ces rues noircies. Il allait pouvoir le constater. Il s'appuya contre la porte un instant, comme pour passer au travers, et laver sa chair de la souillure. Baissant la tête, il émit une plainte étouffée. Il avait envie de se recroqueviller sur les pavés crasseux pour échapper à ce rêve atroce. Mais il savait qu'il n'allait pas se réveiller. Les prêtres lui avaient dit que le cauchemar n'aurait jamais de fin. Pourtant, son tempérament le poussait à l'action. Il devait bouger. S'il s'arrêtait, il craignait de renoncer une bonne fois pour toutes. Le Shaod lui avait pris son corps. Raoden refusait de lui abandonner son esprit. Ainsi, sa fierté en guise de bouclier face au désespoir, au découragement et par-dessus tout à l'apitoiement sur soi, le jeune homme releva la tête pour affronter la damnation. Le jour où Raoden, debout sur la muraille, avait regardé de haut, au sens propre comme au figuré, les habitants de la cité maudite, il avait vu la saleté omniprésente. Désormais, elle l'environnait. Des parois, des bâtiments jusqu'aux fissures innombrables des pavés, la moindre surface arborait une patine de crasse. La substance lisse, huileuse, uniformisait les couleurs sous une unique nuance déprimante qui associait le pessimisme du noir au vert et au marron de l'égout. Ce jour-là, d'en haut, il avait aperçu quelques-uns des habitants. À présent, il les entendait. Une dizaine d'élantriens gisaient, éparpillés sur le pavé. Beaucoup restaient assis, par inconscience ou par indifférence, dans les flaques d'eau noire que la pluie nocturne avait laissées. Et ils geignaient tous. La plupart se contentaient de marmonner des mots sans suite ou de gémir de douleur, mais à l'extrémité opposée de la place, une femme hurlait de terreur. Elle finit par se taire, à bout de force ou de souffle. La plupart portaient apparemment des guenilles, des habits noirs mal ajustés, aussi sales que les rues. À mieux regarder, Raoden les reconnut. Il baissa les yeux sur ses propres linges mortuaires, tels de longs rubans cousus ensemble en une robe longue, ample. Le lin blanc sur ses bras et ses jambes s'était déjà taché au contact de la porte et des piliers. Bientôt, se dit le prince avec amertume, sa vêture ne le distinguerait même plus des autres élantriens. Voilà ce que je vais devenir. Cela a déjà commencé. D'ici à quelques semaines, je ne serai plus qu'une enveloppe vide, qu'un cadavre qui gémit dans son coin. Un mouvement à l'autre bout de l'esplanade le tira de son accès de commisération. Il devina les silhouettes de quelques élantriens tapis dans l'obscurité, d'une entrée qui paraissait patienter et l'observer. Il sentait le poids de leur regard. Raoden leva un bras qu'il mit en visière. Alors seulement, il reprit conscience du panier en osier qu'il tenait à la main et qui renfermait le sacrifice Khorati rituel accompagnant le défunt dans l'au-delà, ou à Elantris. Une miche de pain, des légumes, une poignée de grains, une flasque de vin. En règle générale, les sacrifices mortuaires étaient plus luxueux, mais même une malheureuse victime du Shaod avait droit au sien. Il reporta son regard vers les individus postés sur le seuil du bâtiment. Et soudain, les rumeurs courant à l'extérieur lui revinrent. des rumeurs sur la violence qui régnait ici. Ses silhouettes demeuraient immobiles, mais nul doute qu'elles le surveillaient. Raoden prit une profonde inspiration et fit un pas de côté, le long de la muraille, vers l'est de la place. Même si ses formes humaines l'observaient, elles s'abstinrent de le suivre. Bientôt, ils ne voyaient plus l'entrée qui les abritait. Une seconde plus tard, il se retrouva sain et sauf, dans l'une des rues latérales. Il relâcha son souffle. Il lui semblait avoir échappé à un danger, même s'il en ignorait la nature. Au bout d'un instant, sûr que personne ne le suivait, il se sentit bête. Jusque-là, il n'avait rien vu qui corrobore les on-dits. Secouant la tête, il reprit sa marche. La puanteur était atroce. La boue omniprésente dégageait un relent de moisi, de champignons morts, qui l'obnubilait à tel point qu'il faillit marcher sur la forme noueuse d'un vieillard blotti contre un mur. L'homme émit une plainte pitoyable et leva vers lui une main décharnée. Raoden baissa les yeux. Un frisson le parcourut. Le vieillard devait avoir 16 ans. Il exhibait sous la saleté les meurtrissures du Shaod, mais aussi le visage d'un enfant. Le prince recula d'un pas involontaire. Le jeune garçon, comme s'il s'avisait qu'il allait laisser passer sa chance, tendit le bras avec l'énergie du désespoir. « À manger ?» marmonna-t-il. Raoden vit qu'il lui manquait la moitié des dents. « Par pitié !» Puis le bras retomba et le corps se tassa de nouveau contre le mur glacial. Le regard toutefois restait fixé sur le prince, un regard hanté, peiné. Raoden avait vu des mendiants dans les villes extérieures et il s'était sans doute laissé abuser par des simulateurs, mais celui-ci ne jouait pas la comédie. Il sortit la miche de pain du panier sacrificiel et la tendit au garçon dont l'incrédulité le gêna plus encore que le désespoir qu'elle avait remplacé. Le pauvre avait renoncé à l'espérance depuis bien longtemps. Il ne devait mendier que par habitude. Raoden se détourna, le laissant là, et reprit sa route. Son hypothèse que la saleté de l'esplanade pouvait résulter de la fréquentation et que la ville paraîtrait moins épouvantable au gré de son exploration se révélait infondée. L'artère était tout aussi répugnante, voire davantage. Un bruit sourd retentit derrière lui. Surpris, il se retourna. À l'entrée de la rue, 5 silhouettes sombres s'agglutinaient autour d'une forme étendue. Le mendiant. Avec un frisson, il les vit dévorer sa miche de pain. Il se la disputait, ignorant les cris chagrins de leur victime. L'un des nouveaux venus, visiblement agacé, finit par abattre son gourdin de fortune sur le crâne du garçon. Le craquement résonna dans la ruelle. Les 5 hommes finirent le pain, puis se tournèrent vers Raoden. Anxieux, il recula d'un pas. Apparemment, il avait trop vite conclu qu'on ne le suivait pas. Lorsqu'ils se mirent en mouvement, il pivota sur ses talons et s'élança. La poursuite s'engagea. Raoden, l'estomac noué de peur, une peur qu'il n'avait jamais éprouvée de toute son existence princière, détala à toutes jambes, en s'attendant au souffle court et au point de côté qui l'handicapait lorsqu'il consentait de trop gros efforts. En lieu et place, il ne ressentit qu'une terrible fatigue, une faiblesse, dont il comprit bientôt qu'elle allait le laisser effondrer dans la saleté. La vie semblait l'abandonner peu à peu, une expérience insupportable. Au désespoir, il balança le panier par-dessus son épaule. Ce geste maladroit mit son équilibre en péril, et une crevasse le lui fit perdre pour de bon. Sa culbute s'acheva contre un tas de bois pourri qui avait pu, jadis, être une pile de caisses. La masse céda, amortissant sa chute. Il se redressa si brusquement sur son séant que des miettes de pulpe de bois s'envolèrent pour joncher la ruelle alentour. Ses poursuivants, toutefois, ne s'occupaient plus de lui. Les 5 hommes, accroupis dans la boue puante, ramassaient les légumes et les grains à même la boue et les flaques. Le cœur au bord des lèvres, il regarda l'un d'eux insérer son index squelettique entre les pavés, racler une lichée contenant plus de vase que de blé et l'enfourner avec avidité. Un filet de bave noirâtre ruissela sur son menton, issu d'une bouche qui évoquait une marmite de fange bouillant sur le feu. Un autre, le voyant les observer, gronda et tendit la main vers le gourdin gisant, presque oublié à ses côtés. Raoden, pris de frénésie, chercha une arme et trouva un bout de bois qui semblait un peu moins pourri que le reste. Il le brandit de ses mains tremblantes, en tâchant d'affecter un air menaçant. La brute hésita. Une seconde plus tard, un cri de joie dans son dos attira son attention. L'un de ses complices avait mis la main sur la petite flasque de vin. La lutte qui s'ensuivit dut chasser pour de bon Raoden de leur esprit, car tous les cinq disparurent. Quatre d'entre eux poursuivant celui qui avait eu le bonheur ou le malheur de s'emparer du précieux breuvage. Accablé, le prince se laissa choir parmi les débris. Voilà ce que tu vas devenir. On dirait qu'ils vous ont oublié, Sulé, lança quelqu'un. Il sursauta et tourna la tête vers la voie. Un homme, son crâne chauve reflétant la lumière du matin, reposait dans une posture alanguie sur une volée de marches un peu plus loin. S'il s'agissait de toute évidence d'un élantrien, il ne venait pas d'Arelon. Les zones intactes de sa peau qui arboraient les taches noires typiques du Shaod étaient sombres et non pâles. Raoden se crispa face au danger possible, mais l'homme ne montrait rien de la sauvagerie ni de la faiblesse des autres. De haute taille, robuste, il avait de grandes mains, les yeux vifs dans son visage brun. Il étudiait le prince d'un air pensif. Celui-ci poussa un soupir de soulagement. « Qui que vous soyez, je suis content de vous voir. Je finissais par croire que tout le monde ici était mourant ou fou. Difficile d'être mourant si on est déjà mort. Colo ? » Colo. Le mot exotique était vaguement familier, tout comme l'accent marqué. « Vous n'êtes pas Arélois ?» L'homme secoua la tête. « Je m'appelle Galadon. Je viens de la nation souveraine du Duladel. Et depuis peu, je réside à Elantris, la cité de la fange, de la folie et de la perdition. Ravi de faire votre connaissance. Du Duladel ? Pourtant, le Shaod n'affecte que les natifs d'Arelon. » Raoden se leva, brossant les bouts de bois plus ou moins décomposés qui parsemaient sa vêture, et grimaça. Son gros orteil l'élançait. Il était couvert de boue. La puanteur d'Elantris émanait désormais de sa propre personne. Le Duladel est un pays de sang mêlé, Sulé. Arélois, Tewa, Fjordel, on les trouve tous. Un juron du prince interrompit Galadon, qui haussa le sourcil. Qu'y a-t-il, Sulé ? Une écharde au mauvais endroit ? Bien qu'il n'y ait guère de bons endroits, j'imagine. C'est mon orteil ! Raoden boitillait sur le pavé glissant. Il a un problème. Je l'ai cogné en tombant, mais la douleur ne s'atténue pas. L'autre secoua la tête avec regret. Bienvenue à Elantris, Sulé. Vous êtes mort. Votre corps ne guérit plus comme il le devrait. Quoi ? Raoden s'assit sans grâce sur le sol, au bas des marches. Son orteil lui faisait aussi mal que sur le cou. La moindre douleur persiste, souffla le colosse. Coupure, éraflure, déchirure, meurtrissure, peu importe. Elle demeure entière jusqu'à ce que la souffrance vous rende fou. Comme je vous le disais, bienvenue à Elantris. Comment peut-on le supporter ? Il se massa l'orteil sans résultat. La blessure par elle-même était ridicule, mais il devait lutter pour refouler ses larmes. On ne peut pas. Soit on reste très prudent, soit on finit comme les rulots que vous avez vus sur l'esplanade. L'esplanade, idos domu. Raoden se releva tant bien que mal et revint sur ses pas en trébuchant. Il trouva le jeune mendiant au même endroit près de l'entrée de la ruelle. Il était encore en vie, pour ainsi dire. Pupille palpitante, les yeux du garçon fixaient le néant. Ses lèvres remuaient sans qu'un son ne lui échappe. Il avait le cou broyé au point qu'on lui voyait l'intérieur de la gorge et les vertèbres. Il essayait en vain de respirer par la brèche. Soudain, Raoden ne se préoccupait plus guère de son orteil meurtri. « Idos domu !» Il se détourna avec un haut-le-cœur, tendit la main et prit appui contre le mur, la tête baissée, en s'efforçant de ne pas ajouter à la fange qui maculait le pavé. « Il n'a plus rien à attendre, celui-là, » dit Galadon d'un ton neutre en s'accroupissant près du mendiant. « Combien ?» Le prince se tut, par crainte de vomir pour de bon. Il s'assit avec bruit dans la boue et ne reprit la parole qu'après de profondes inspirations. Combien de temps est-ce qu'il lui reste à vivre ? Décidément, la situation vous échappe, Sulé. L'accent prononcé ne dissimulait guère le chagrin de la voix. Il n'est pas vivant, ni lui, ni aucun de nous. Voilà pourquoi on est là. Colo ? Il va rester dans cet état à jamais. Ce qui, après tout, constitue la durée typique de la damnation éternelle. Et il n'y a rien que l'on pourrait faire ? Le colosse haussa les épaules. Le brûler, peut-être, si on avait de quoi allumer un feu. Les corps des élantriens brûlent mieux que tous ceux des gens normaux, à ce qu'il paraît. Certains estiment que c'est une fin appropriée pour nos semblables. Et il n'arrivait toujours pas à regarder le garçon. Dans ce cas, que deviendra-t-il ? Que deviendra son âme ? Il n'a pas d'âme, selon les prêtres du moins. Corati, Dereti ou Jeskeri, ils chantent tous la même chanson. Nous sommes damnés. Cela ne répond pas à ma question. Si on le brûle, est-ce que sa souffrance prendra fin ? Le Dula considéra le garçon et haussa de nouveau les épaules. Pour les uns, nous brûler, nous couper la tête ou détruire toute notre masse corporelle nous permet de cesser d'exister. Pour les autres, la souffrance continue. On devient la souffrance, on flotte, dépourvu de pensée, mais pétri de douleur. Comme aucune de ces deux options ne me séduit, je tâche de rester en un seul morceau. Colo ? Oui, souffla Raoden. Je colo. Il se retourna, trouvant enfin le courage de toiser le blessé. L'énorme trou dans sa gorge arrêta son regard. Le sang suintait sans hâte de la plaie, comme si le liquide stagnait dans les veines ainsi que l'eau dans une flaque. Glacé de terreur, le prince posa une main sur sa poitrine. « Mon cœur ne bat plus », constata-t-il pour la première fois. Galadon le dévisagea comme s'il venait de proférer une énormité. « Sulé, enfin ! Vous êtes mort ! Colo ?» Ils s'abstinrent de le brûler. Non seulement il leur manquait le nécessaire pour allumer un feu, mais le Dula l'interdit. Impossible de prendre une pareille décision, et s'il n'avait vraiment pas d'âme ? S'il cessait d'exister quand on brûlait son corps ? Pour beaucoup, mieux vaut mener une existence de souffrance que pas d'existence du tout. Ils le laissèrent donc là. Galadon sans arrière-pensée, Raoden faute de meilleure solution, mais avec un sentiment de culpabilité plus aigu que la douleur dans son orteil. Le Dula paraissait se ficher que l'autre le suive, parte en sens inverse, ou reste à contempler une constellation de crasse sur le mur. Le colosse à la peau brune rebroussa chemin et poursuivit sa route sans prêter la moindre attention au corps gémissant qui, ici et là, ponctuait le caniveau. En le regardant qui s'éloignait avec indifférence sans se retourner, Raoden tâcha de rassembler ses idées. On l'avait préparé à la politique des années durant. Sa formation l'avait conditionné à prendre des décisions rapides. Il en prit une sur l'instant. Il décida de se fier au Dula. L'homme manifestait un trait indéfinissable qui attirait la sympathie sous la couche de pessimisme aussi épaisse que la fange sur les pavés. Plus que sa lucidité ou son détachement étudié, le prince avait apprécié l'air chagrin qu'il avait eu en considérant le blessé à l'agonie. Galadon prétendait accepter l'inévitable, mais s'attristait de devoir le faire. Le Dula reprit place sur les marches et se rallongea, avec une inspiration pour affermir sa détermination. Raoden alla se poster devant lui. Galadon leva les yeux. « Quoi ?» Le prince s'accroupit devant lui. « J'ai besoin d'aide. » Un petit rire. « On est à Elantris, Sulé. De l'aide. Ici, on ne trouve que la souffrance, la folie et beaucoup de boue. À vous entendre, vous y croyez presque. Vous frappez à la mauvaise porte, Sulé. Vous êtes le seul individu non comateux qui ne m'ait pas attaqué. Vos actes sont plus convaincants que vos paroles. Si je ne vous ai pas fait de mal, c'est peut-être parce que vous ne possédez rien qui en vaille la peine. Je ne crois pas, répliqua Raoden. L'autre haussa les épaules pour montrer le peu de cas qu'il faisait de cette opinion. Puis il détourna la tête, se laissa aller contre le mur et ferma les yeux. Vous avez faim, Galadon ? Murmura le prince. Le colosse entr'ouvrit les yeux. Je me demandais parfois quand le roi Yadon nourrissait les élantriens, poursuivit Raoden. Je n'avais jamais entendu dire qu'on expédiait des provisions dans la ville, mais cela me paraissait évident, puisque les élantriens restaient en vie. Je n'avais pas compris. Si l'on n'a pas besoin que son cœur batte ici, on peut sans doute se passer de manger aussi. Pour autant, la faim vous laisse-t-elle en paix ? J'étais affamé ce matin au réveil, et je le suis toujours. À en juger par le regard de mes assaillants, cette sensation ne fait qu'empirer. Il passa la main par l'échancrure de sa robe mortuaire, sale, et tira une sorte de fin ruban et le brandit de telle sorte que le Dula puisse le voir. Une lanière de viande séchée. Galadon écarquilla les yeux et sur son visage, l'ennui laissa place à l'intérêt. Son regard s'aviva d'une lueur qui évoquait la folie que le prince avait vue chez ses assaillants. Plus mesurée, mais bien présente. Pour la première fois, il se rendit compte du risque qu'il prenait à tabler ainsi sur l'impression initiale que son compagnon lui avait faite. « D'où est-ce que ça vient ?» demanda l'autre lentement. « C'est tombé de mon panier pendant que les prêtres me menaient jusqu'ici. Je l'ai ramassé et fourré sous ma ceinture. Vous le voulez ou pas ?» Galadon prit son temps pour répondre. « Qui vous dit que je ne vais pas me contenter de le prendre de force ?» La question n'avait rien de rhétorique. Raoden sentait bien l'autre divisé. Une partie de lui envisageait l'acte. La taille de cette partie restait plus difficile à évaluer. « Tu me donnes du sulé ? Et tu tuerais un homme que tu qualifies d'ami ?» Son attention rivée sur le petit morceau de viande, un filet de salive goûtant d'une des commissures de ses lèvres, le Dula finit par lever les yeux vers le prince, dont l'anxiété croissait. Puis leurs regards se croisèrent. La tension disparut, et Galadon éclata de rire, un rire profond, dans les basses. « Tu parles d'Uladen, Sulé ?»« Quelques mots, » dit Raoden avec modestie. « Un érudit ? Belle offrande pour Elantris ce matin !»« Bon, rusé rulot, qu'est-ce que tu veux en échange ?»« 30 jours de ton temps. 30 jours à me guider et à m'instruire. »« 30 ? Sulé, tu es Kayana !»« Est-ce que je constate, » rétorqua le prince en faisant mine de glisser de nouveau la lanière de viande sous sa ceinture, « la seule nourriture qui arrive provient des nouveaux venus. On doit crier famine avec des offrandes si rares et des estomacs si nombreux. Un tel appétit, cela doit vous rendre fou. » « 20 jours, » proposa Galadon dont le regard brasillait. « 30, Sulé. Si tu ne m'aides pas, personne ne le fera. » Le Dula serra les mâchoires. « Rulot !» marmonna-t-il enfin, avant de tendre la main. « 30 jours. Par chance pour toi, mes projets pour les semaines à venir ne comprenaient aucun voyage au long cours. » Raoden lui jeta la viande avec un grand rire. L'autre s'en empara d'un geste vif. Même si sa main se porta de rechef vers sa bouche, il se maîtrisa et rangea le mets dans une de ses poches. Puis il se leva. « Alors, tu dois avoir un nom. » Le jeune homme hésita. Il vaut mieux que l'on ignore mon ascendance royale pour l'heure. Sulé m'ira très bien. Galadon eut un petit rire. On tient à son intimité, je vois. Très bien, allons-y. Tu vas avoir droit à ta visite guidée.